Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Une des questions que nous recevons le plus souvent des demandes de brochures ou d'explications concerne la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Pourquoi est-ce que nous devons souffrir, vous et moi, car cela nous arrive tous à un moment donné ou à un autre? La souffrance, une douleur ou une détresse physique ou émotionnelle. Pourquoi est-ce que nous devons expérimenter cela? À l'époque de la Pâque et de la fête des pains sans levain, nous devons considérer les souffrances de Jésus-Christ pour nous, à notre place. Donc, nous devons réfléchir au sujet des souffrances. Par notre participation à la Pâque, nous acceptons de souffrir pour obéir à Dieu. Ça fait partie de la signification de la Pâque. Le fait de manger du pain sans levain représente le fait de choisir une voie plus difficile dans la vie, une voie d'obéissance qui passe parfois par la souffrance. Nous ne vivons pas une voie facile, nous vivons par principe, le principe de l'obéissance à la volonté de Dieu. La souffrance figure toujours dans le plan de Dieu dès le début de ce que Jésus-Christ devait souffrir. La souffrance a toujours fait partie de la vie physique depuis la sortie du Jardin d'Éden, mais il y avait des prophéties annoncées longtemps à l'avance concernant la souffrance que le Messie devait subir. Ésaïe chapitre 53, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3. Ce passage dans le livre d'Ésaïe concerne le Messie, justement. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Notons combien de fois ce mot revient, se répète. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Habitué à la souffrance. Et je vous avais déjà demandé de noter combien de fois ce mot revient. Ces mots importants, souffrance, humilié, abusé par d'autres personnes, il a été blessé par d'autres, et il ne le méritait pas. Regardons un autre passage prophétique concernant les souffrances de Jésus-Christ. Psaume 22. Psaume 22. Nous allons commencer au verset 1. Psaume 22, verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Un peu plus bas, au verset 6. « Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confondus. Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Verset 14. « Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme le cire, il fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Un psaume dédié, on peut le dire, aux souffrances qu'ont connues Jésus-Christ. C'était prévu longtemps à l'avance qu'il devait souffrir comme cela. Longtemps à l'avance, bien avant sa naissance. Ça faisait partie du plan de Dieu que son fils, le Messie, devait souffrir. Il connaissait les souffrances des êtres humains. Il a subi des souffrances bien pires que ce que nous avons traversé. Il a guéri les gens. Et puis, lors de son procès et sa crucifixion, il a souffert atrocement. Cela nous est relaté dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Si parfois nous devons souffrir, Dieu ne nous demande pas de traverser des choses que son Fils n'a pas déjà traversées. Il a souffert bien plus que nous. Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'ajure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du trône de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble. » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » L'humiliation et la souffrance à cause de faux témoins, à cause de mensonges. Matthieu chapitre 27, verset 15. Matthieu chapitre 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. » Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, le dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Écrire encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Évidemment, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, la signification de leurs paroles. Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le recouvrant d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» et crachait contre lui, prenant le roseau et frappant sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu de crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de sa croix, et nous croirons en lui ». Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Deux tableaux des souffrances de Jésus-Christ, ce qu'il a accepté volontairement de subir afin de nous offrir une voie vers le pardon de nos péchés. Il a pris nos souffrances sur lui. Il nous a montré l'exemple parfait de comment faire face à la souffrance. Et nous pouvons beaucoup apprendre en contemplant son exemple. Prenons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons commencer à lire au verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il nous a montré, comme j'ai dit, un exemple puissant, un exemple parfait de comment un être humain doit affronter les souffrances, surtout un être humain appelé par Dieu, qui connaît la voie divine. Alors, j'aimerais que nous nous posions la question aujourd'hui pendant le temps de ce sermon. Gardez cette question derrière la tête, si vous voulez bien, alors que nous allons regarder d'autres passages dans la Bible aussi. Comment agissons-nous lorsqu'on nous maltraite, lorsqu'on nous fait quelque chose qui est injuste, qui nous fait souffrir? Comment est-ce que nous réagissons à cette situation? C'est facile, nous le savons tous, hein, c'est facile pour un être humain de laisser la colère, l'apitoiement, le négativisme et les rancunes empoisonner nos pensées, noircir nos attitudes. Alors parfois, nous faisons un autre tour du mal. Nous imposons les souffrances aux autres par des commentaires négatifs, accusateurs. Le commérage, l'indifférence, l'hostilité. Après tout, nous avons bonne raison, une bonne excuse, n'est-ce pas? On nous a maltraités, ben on va faire la même chose. On va leur envoyer l'ascenseur. Nos sociétés, de plus en plus, nous disent que quand nous souffrons, nous avons le droit d'imposer autant de souffrance sur quelqu'un d'autre. Si vous êtes fâché, vous pouvez vous comporter n'importe comment. Les règles ne s'appliquent plus à vous parce que vous êtes fâché. Et quand on est fâché, on a toujours raison, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit. C'est faux, mais c'est ce qu'on nous dit de plus en plus dans nos sociétés, dans l'Occident. Comment devrions-nous nous comporter quand nous devons souffrir? Nous venons de parler de la réaction humaine normale, qui n'est pas bonne. Alors, nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous devrions réagir, nous comporter quand nous devons souffrir? Par des circonstances de la vie ou par des mauvaises actions de quelqu'un à notre encontre? On peut apprendre beaucoup. On peut utiliser les souffrances positivement pour croître. Alors, d'après la Bible, voilà ce qu'un chrétien devrait faire lorsqu'il souffre. Premièrement, toujours montrer de l'amour. Toujours penser à l'autre personne ou les personnes qui nous entourent, même ceux qui nous font souffrir. Nous devons quand même garder une attitude d'amour envers eux. Luc chapitre 23. Ce que nous allons voir dans la Bible n'est pas toujours facile à faire, mais c'est ce que dit la Bible. Nous sommes appelés à faire des choses parfois difficiles. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, alors qu'il souffrait au milieu de ce que nous venons de voir, son exemple, la crucifixion, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent pas. Quand nous devons confronter les gens dans le monde qui nous font souffrir, qui nous font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un jour, ils le sauront, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas le christianisme, ils ne comprennent pas ce que Dieu nous dit, ils ne comprennent pas l'attitude qu'ils devraient avoir, tout comme les soldats qui crucifiaient Jésus ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ça, c'est pas facile pour un être humain de garder cette optique, mais c'est ce que nous devons faire. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est un défi, de garder une attitude d'amour envers ceux qui nous font souffrir. Mais c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Et la Bible dit, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses pas, ses traces. Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Verset 43 dit, « Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est la voie humaine. Mais Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, mûrs, complets, comme votre Père céleste est parfait. » Un élément de la perfection que nous recherchons, c'est d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et ceux qui nous blessent, que ce soit émotionnellement ou même physiquement, comme ce fut le cas pour Jésus-Christ. Toujours montrer de l'amour. Ça, c'est ce que la Bible nous dit à propos de comment agir ou réagir quand nous passons par les souffrances. Nous ne devons pas uniquement penser à nous, et de penser aux autres. L'exemple que nous donnons dans des moments difficiles comme cela peut vraiment marquer les personnes. Et Dieu peut se servir de nos exemples pour attirer leur attention au jour où il les visitera. Deuxième chose que la Bible nous dit, quand nous souffrons, nous devons comprendre la valeur des souffrances. Est-ce que cela paraît bizarre? Il y a une valeur dans les souffrances. Ce n'est jamais agréable, bien sûr, personne n'aime souffrir, mais du bien peut en sortir si nous avons la bonne approche vis-à-vis des souffrances. On peut apprendre beaucoup. On peut approfondir sa compréhension de la vie, de la voie chrétienne. Et donc, notre caractère peut s'accroître à travers les souffrances. Nous apprenons les choses si nous faisons attention. Si nous sommes ouverts à la leçon, nous pouvons beaucoup apprendre. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent auteur d'un salut éternel. C'était vrai pour Jésus-Christ. Il a appris les choses par ce qu'il a souffert. Le commentaire biblique Expositors affirme ceci. L'accomplissement d'une action requise nécessite une certaine qualité. Qualité qui fait défaut lorsque on se contente d'être prêt à agir. L'innocence diffère de la vertu. L'innocence n'est pas la même chose que la vertu. L'accomplissement d'une action, le fait de persévérer quand on souffre, est une qualité qui fait défaut lorsqu'on se contente d'être prêt à souffrir. C'est différent d'avoir traversé la souffrance. Je suis prêt à accomplir cette tâche difficile n'est pas la même chose que j'ai accompli cette tâche difficile. C'est beaucoup plus profond. Et comme nous avons lu au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, parce qu'il était prêt à souffrir, il était élevé à la perfection, terminé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Perfection, complet, complété. C'est une chose qui ne vient que par la souffrance. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne va pas avoir la profondeur spirituelle de quelqu'un qui a traversé les souffrances. Ça, c'est une chose à garder à l'esprit quand nous passons par des moments pénibles. Je suis en train de croître. Je dois affronter ces souffrances avec le bon état d'esprit. Avec le bon état d'esprit. Hébreux chapitre 2, revenons quelques pages en arrière. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Élevé à la perfection par les souffrances. Il y a un mûrissement qui a lieu. Nous nous approchons d'être un produit terminé entre les mains de Dieu. Et cela passe par la souffrance. C'est vrai pour nous aussi. Si c'était vrai pour Jésus-Christ, à combien plus forte raison ne sera-ce vrai pour nous. Quand nous considérons comment nous pouvons apprendre à endurer les difficultés, surmonter les obstacles, résoudre les conflits, établir et maintenir de bonnes priorités, alors nous pouvons avoir une attitude positive dans les souffrances. Quand nous apprenons ces différentes leçons, nous ne voyons pas tout de suite. Quand nous souffrons, surtout dans une souffrance intense, nous ne voyons que la souffrance, à moins de prendre un peu de recul et de considérer le grand tableau de la vie humaine. Il y a des années, quand ma grand-mère était encore en vie, elle m'a offert un marque-page tissé et couvert de plastique, une sorte de broderie avec mon nom dessus. Au dos, ce marque-page était laid. Un enchevêtrement de fils partant dans tous les sens, un mélange chaotique de couleurs sans ordre ni motif discernable, sans rime ni raison. Mais au recto, c'était beau, avec des couleurs de bon goût, un bon motif, et mon nom avec sa signification. Ce marque-page, malheureusement, a été perdu lors de l'un de nos nombreux déménagements. Mais je garde le souvenir de ce marque-page, parce que je le considère comme une illustration de la vie. Ce que nous voyons autour de nous, c'est le revers. C'est chaotique. Tout semble chaotique. Nous ne discernons pas toujours ce qui se passe, pourquoi ce fil est là, pourquoi cette couleur est là. Nous ne le voyons pas. Ni l'ordre, ni raison. Mais Dieu œuvre de l'autre côté. Il œuvre sur le recto, un dessin que nous ne pouvons voir qu'à travers un miroir obscur maintenant. Un jour, il va nous révéler ce qui est sur l'autre côté de notre marque-page, et nous allons être stupéfaits, émerveillés et énormément reconnaissants pour ce que Dieu a fait pendant de longues années de nos vies. Le revers est composé de fils, tout de travers, sans logique, mais le devant a un sens, et c'est beau. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Christ a dû souffrir pour être fidèle au plan de son Père. Et quand nous souffrons, parce que nous sommes fidèles au plan de son Père, nous partageons ses souffrances. Il y a une confrérie dans la souffrance. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est naturel à l'homme, on a tendance à considérer la souffrance comme une question de cause à effet. On se demande parfois, mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi ça me tombe sur moi? Quelle est la cause de cette souffrance? Et souvent, il y a cause et effet. Parfois, il y a une cause pour les souffrances qui nous arrivent. Mais Dieu considère la souffrance davantage en termes de conséquences, ce qui va résulter de la souffrance, ce qu'elle peut entraîner, ce qu'elle peut approfondir en nous, plutôt simplement que de regarder la question de cause à effet. La Bible nous encourage à éviter certaines mauvaises actions, des péchés, parce que le péché entraîne finalement la souffrance. Mais parfois la souffrance nous est imposée et ce n'est pas de notre faute. Et Dieu le permet à cause de ce que cela peut produire. Le but de la souffrance ne réside pas tant dans ses causes que dans ses conséquences, ce que les souffrances entraînent. C'est pourquoi le Nouveau Testament fait plusieurs fois référence à la joie des disciples quand ils souffraient à cause de ce que Dieu leur demandait de faire. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance précède la gloire. Il faut passer par le premier pour arriver au dernier. Actes chapitre 5 également. Actes chapitre 5, un exemple. Verset 40. Ils avaient dit aux disciples d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Il a dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 40, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ce qui était grave et douloureux. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils se réjouissaient, ils ne s'apitoyaient pas sur eux, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne faisais que accomplir la volonté de Dieu. Mais eux, ils le voyaient en d'autres termes. Dieu nous a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'optique que nous devrions avoir également. Comprendre la valeur des souffrances, ce qui peut en résulter. Troisième chose que la Bible nous dit quand nous devons affronter les souffrances, nous devons mettre notre confiance, notre foi, dans le jugement, la justice et la puissance de Dieu. De nous remettre entre les mains de Dieu en lui faisant confiance de faire ce qui est nécessaire. C'est plus facile de souffrir en silence si nous savons que quelqu'un nous regarde. Dieu nous regarde. Il regarde nos réactions, comment nous réagissons. C'est plus facile de souffrir en silence si nous savons que quelqu'un nous regarde. C'est vrai. C'est la voie de la nature humaine. Quand nous sommes seuls et nous pensons que personne ne nous voit, alors nous nous permettons parfois des choses qu'on ne ferait pas si on savait qu'on avait un auditoire autour de nous. Nous ne devrions pas tant regarder les gens autour de nous. Nous devrions considérer que les yeux de Dieu sont sur nous. Nous devons regarder au-delà des injustices humaines pour voir la justice parfaite de Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a fait. Il se remettait toujours à Dieu, lui faisant confiance qu'il ferait ce qui est la meilleure chose à faire dans cette circonstance. Matthieu 26. S'il vous plaît, Matthieu 26. Verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je le boive, que ta volonté soit faite. Ça, c'était son exemple. Face à la crucifixion, une douleur inimaginable pour nous. Il savait que c'est ce qu'il attendait le lendemain et il a dit que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Ça, c'est l'attitude que nous devons viser à avoir également, que ta volonté se fasse. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui sont donnés en liste au chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il avait ses yeux fixés sur le but, accomplir la volonté de Dieu, la joie qui va arriver si nous sommes fidèles à Dieu et à ses instructions dans cette vie. Si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, la joie nous attend. Et c'est là où Jésus fixa ses yeux. Il regardait le but, la joie. Non seulement sa joie à lui, mais notre joie à nous et à tous nos frères et sœurs depuis que l'Église est fondée. La joie devant. Et Hébreux chapitre 6, verset 10, quelques pages en arrière, Hébreux chapitre 6, verset 10, c'est un autre passage à garder à l'esprit quand nous souffrons pour être fidèles à Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons, rien de ce que nous faisons, il n'oublie, quand nous le faisons pour sa gloire, pour avancer son plan, l'accomplissement de son plan de salut. Il n'oublie pas nos efforts. Il ne va pas oublier quand nous avons traversé les souffrances et bien réagi et nous avoir comporté convenablement à ses yeux. Il n'oublie pas notre travail. Et c'est un travail de faire face aux souffrances. C'est un travail lourd, une tâche lourde. Mais il n'oublie pas nos efforts. Et également dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Car si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Avec la souffrance vient un grand réconfort. Dieu intervient pour nous réconforter au milieu des souffrances. Il nous réconforte dans nos détresses. Et nos détresses et le réconfort qu'il nous envoie peuvent aussi encourager d'autres personnes. Quand nous voyons un frère ou une sœur qui traverse une épreuve difficile, quand nous le voyons maltraité par quelqu'un et nous le voyons qu'il réagit bien, qu'elle réagit bien, c'est encourageant pour nous. C'est réconfortant pour nous. Voir des frères et sœurs chrétiens persévérer dans la souffrance nous donne du courage. Cela renforce notre cran, notre caractère, notre désir d'obéir à Dieu. Voir Dieu réconforter les autres nous réconforte également. Voir son amour et sa miséricorde déployés en faveur d'un frère ou d'une sœur. Et dans un sens, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Il a connu à la fois la souffrance et le réconfort. Et nous aussi. Un auteur de notre Edward Tudson a dit « Réussite et souffrance sont intimement liées. Si vous réussissez sans souffrir, c'est parce que quelqu'un d'autre a souffert avant vous. Si vous souffrez sans réussir, c'est pour que quelqu'un d'autre réussisse après vous. » La réussite et la souffrance sont liées. Nous savons qui va nous réconforter. Une maman qui doit nettoyer le genou d'un enfant qui était blessé, on peut expliquer pourquoi il faut le nettoyer, mais l'enfant sait que ça va faire mal. Dans ces moments-là, l'enfant veut une personne avant tout, maman, une personne qui l'aime peut-être le plus. C'est maman qui offre un réconfort, une consolation. Et Dieu occupe ce rôle dans nos vies. C'est lui qui nous réconforte. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Cela devrait représenter notre perspective sur la vie et sur les souffrances. Nous avons notre lot de joie, de réjouissance dans la vie, Dieu nous donne beaucoup, mais nous avons aussi notre lot de souffrance que nous devons traverser sur notre chemin vers la gloire. Jésus-Christ nous aide à garder cette perspective. Il nous fortifie, tout comme nous avons la responsabilité de suivre son exemple. Jean chapitre 6, verset 56. Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Demeurer en Christ, permettre au Christ de demeurer en nous, implique le fait de réagir à la souffrance comme il l'a fait, de suivre son exemple. Cela correspond au caractère de Dieu, car il conduit de nombreux fils à la gloire. Et les souffrances sont temporaires. Un jour, les souffrances seront terminées à tout jamais. Nous ne souffrons plus jamais quand nous arriverons dans la famille et le royaume de Dieu. Dieu nous donne un aperçu de cela dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est notre avenir. Nous pouvons garder nos yeux fixés sur ce moment quand les souffrances seront terminées. Il n'y aura plus ces choses. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Vivement ce jour, frères et sœurs. Finalement, lorsque notre caractère sera pleinement formé, la souffrance appartiendra uniquement au passé. Ça sera fini pour nous. Alors, à chaque fois que nous célébrons la Pâque et la fête des pains sans levain, méditons la souffrance de Jésus-Christ. Comprenons profondément le sens de ces souffrances. Souvenons-nous et réengageons-nous à accepter de souffrir pour accomplir la volonté de Dieu et à contribuer à l'accomplissement de son grand plan de salut. Rappelons-nous de ces points que nous venons de voir aujourd'hui. Comment nous devons réagir aux souffrances? Nous devons d'abord toujours montrer de l'amour envers les personnes qui nous entourent, même les fautifs. Nous devons voir, comprendre la valeur qui peut résulter des souffrances. Nous devons mettre notre confiance, notre foi, dans le jugement plutôt, le jugement, la justice et la puissance de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons accomplir sa volonté et suivre l'exemple de Jésus-Christ.